dimanche sur 4.
Un dimanche sur 4.
À 20h. Sur Radio Campus Paris.
93.9 FM.
Noé Margas.
Mon premier atelier Dracking est un exercice initiatique. Le premier pas d'un processus ouvert de mutation. Nous sommes une douzaine de biofemmes. Chacune dit son nom, explique d'où elle vient, quelle est son expérience de la masculinité et de la féminité. L'organisatrice est une butch, aux cheveux courts, qui porte des pantalons de cuir, avec un visage de jeune garçon et une voix douce. Elle accueille nos histoires avec attention, mais sans leur conférer un poids psychologique excessif. Bien que nous soyons dans le centre LGBT, nous ne nous identifions pas toutes comme lesbiennes ou bisexuelles. Il y a aussi des biofemmes qui sortent avec des hommes transsexuels, et une actrice hétéro qui vient chercher une formation théâtrale pour construire un rôle masculin. Deux tours de parole suffisent pour qu'on comprenne que le trafic des codes culturels de la féminité et la masculinité n'est pas une affaire exclusivement lesbienne ou transsexuelle. Les participantes parlent de leur première fois, du viol, de l'avortement, de l'inceste, de la difficulté de se sentir différente des autres filles, de la honte d'être montrée du doigt à l'école comme garçon manqué, d'avoir trop de poitrine, de ne pas en avoir, d'en avoir trop tôt ou trop tard, de ne pas pouvoir s'asseoir comme on veut et où on veut, de ne pas pouvoir cracher, crier, de ne pas pouvoir frapper quand les autres frappent. Je parle de ne m'être jamais sentie femme, d'avoir pensé à me faire une opération de greffe de pénis avec mes premières économies quand j'avais 7 ans, puis de mon opération de la mâchoire à 18 ans, du sentiment de ne reconnaître ni mon corps, ni mon visage. Se crée ainsi, petit à petit, un tissu de voix de plus en plus dense, qui nous entoure et nous permet de nous couvrir des paroles partagées, comme d'une seconde peau collective. On peut percevoir sous cette membrane protectrice, à travers une loupe politique, que féminité et masculinité sont les engrenages d'un système plus large, auquel toutes et chacune participons structurellement. Ce savoir est libérateur. Il produit un plaisir politique spécifique que je n'avais jamais expérimenté auparavant.
Dans cet extrait de Testo Junkie de Paul B. Preciado paru en 2008, que le drag king Lascar Wilde vient de nous lire, on peut saisir ce qu'est l'expérience d'un atelier drag king et ce qu'il peut venir bouleverser chez une personne qui y participe. Le drag king, c'est-à-dire la performance de la masculinité, est un art de la mise en scène singulier, qui se veut à la fois social, théâtral, quelquefois musical et surtout politique. De la caricature à la flamboyance, le drag king c'est un peu ce que vous voulez faire de la masculinité, de votre masculinité finalement. Qui mieux que le Daddy King Victor Lemort pour nous parler de cet art dans ce premier épisode de Drag Héréotype? C'est quand même beaucoup grâce à lui que le King existe aujourd'hui avec tant de vivacité sur la scène parisienne. Je suis très content de te recevoir. Bonjour Victor Lemort.
Bonjour Noé Margas.
C'est très sérieux. Peut-être on peut commencer par parler de tes ateliers que tu animes. Est-ce que tu peux nous raconter le dernier atelier Drag King que tu as animé?
Oui, déjà commencer par te remercier pour cette belle invitation. Je suis très fier d'ouvrir un peu le bal. Alors le dernier atelier, il est tout chaud, il est tout frais. Il s'est déroulé il y a une semaine, dimanche dernier, pour clôturer la marche des fiertés qui s'est déroulée à Caen, en Normandie. Et c'était un très bel atelier, d'ailleurs comme tous les ateliers, à ceci près qu'il y avait une grande diversité de public. Il y avait des personnes trans, il y avait des personnes non-binaires, il y avait des personnes, des femmes cis, hétéros, une femme enceinte, des personnes non-valides, des personnes racisées. Donc là, c'était vraiment, je dirais, notre terrain de jeu idéal dans lequel on aime collaborer et expérimenter ensemble et découdre un peu et déconstruire un peu tous ces codes dont tu parlais en introduction.
Est-ce qu'il y a un événement qui t'a particulièrement marqué pendant cet atelier?
Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'extrait que tu as lu il y a quelques instants, Paul, à un moment, parle de cette discussion en fait entre personnes. Alors, c'est marrant parce qu'il y a deux choses en fait qui ont beaucoup changé entre 2008 et aujourd'hui. Paul écrit des femmes bio. Aujourd'hui, on ne dit plus. On dirait des femmes cis. Et on parle aussi de transsexualité. Et aujourd'hui, on est du côté du transgenre. Donc c'est intéressant, cette évolution sémantique qui est vraiment propre et très singulière à notre communauté. Cette créativité autour du renouvellement lexical. Ça me plaît beaucoup, en fait. Rien n'est définitif et donc tout est évolutif. C'est ça qui est très chouette et qui permet aussi aux nouvelles générations, y compris les nouvelles générations de drag, d'avoir en vue un perpétuel renouvellement. Et j'ai commencé déjà à oublier ta question.
La question, c'était est-ce qu'il y avait un événement marquant ?
Oui, il y a toujours un événement marquant, j'ai envie de dire, quel que soit l'atelier et quel que soit le public. L'événement marquant, souvent dans mes ateliers, il peut se produire à deux endroits différents. Le premier endroit, c'est le gender talk, qui est donc cette discussion d'échange et d'écoute bienveillant, et surtout, je dirais, d'échange des outils et des mécanismes de résistance qu'on a pu développer chacune et chacun de son côté. En termes de be safe dans l'espace public. Et il est très souvent question de VSS. Et ce qui a été marquant, c'est que la personne, en l'occurrence, on a parlé pour la première fois, et c'est toujours, comment dire, quelque chose de c'est une parole très puissante qu'il faut vraiment accueillir. Avec beaucoup de calme et d'empathie. Et donc, ce qui est intéressant après, c'est que souvent, on met une poubelle imaginaire, en fait, dans notre gender talk, ce qui nous permet aussi d'aller jeter toutes ces merdes, en fait, qu'on a pu vivre, subir ou assister. Voilà. Mais les VSS, c'est quelque chose qui ressort... je dirais quasiment un atelier sur deux.
Et t'en parlais un petit peu en amont, la mixité de la pratique du drag king, elle est assez singulière. Est-ce que c'est quelque chose que tu chéris ? Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans cette mixité-là ?
C'est toujours riche de travailler dans sa propre communauté, mais c'est tout aussi riche, et je dirais, ça me permet à moi en tout cas de me renouveler, c'est d'être dans des espaces où tu n'es pas nécessairement attendu, où tu es hors communauté. Et ce qui est intéressant en fait avec la mixité des publics, et là en l'occurrence c'était un public vraiment, voilà, on ne peut pas rêver mieux, parce qu'on a pu aborder aussi bien politiquement que culturellement tous ces mécanismes qui sont singuliers à la parole in situ avec laquelle tu t'exprimes. Une personne qui est en difficulté en termes de validité ou en tout cas de mobilité va avoir un discours qui est propre, je dirais, à son envie de drague. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça se croise toujours, même avec une personne qui est très éloignée.
So when I walk, I have a sense of ownership, a sense of belonging, so that with each foot that I take, you have a sense that I could own that piece of floor for the minute that my foot rests there. I have this 360 degree boundary around myself. Something that I learned in Aikido, that you need to stand very solidly on the ground, on the earth. Tony, Eric, and Larry, let's see you occupy the space, and let's see how you can own the floor. you're a bit of a loss, aren't you, as a human being? Period.
Yeah, I'm just very like, yeah, forward.
It's all right, Lara. You can hide behind that hair. You have to remember that boys grew up in playgrounds where they always had to defend themselves. So you need to develop more armor, actually, in your physicality. How would this guy protect himself? I'm really communicating, and my gaze is on the edge, it's on the surface of my eyeball. I'm like looking out at the world with a lot of curiosity and a desire to communicate. Now, as a man, as this man, I'm a lot more reserved, and I expect the world to come to me. So I'm much more withdrawn.
Quand je marche, j'ai un sentiment d'appartenance. Avec chaque pas que je fais, vous avez le sentiment que je pourrais posséder ce morceau de sol dès l'instant où mon pied s'y pose. J'ai cette limite de 360 degrés autour de moi. Quelque chose que j'ai appris en aïkido, c'est que vous devez rester très solidement sur le sol, sur la terre. Tony, Eric et Larry, voyons si vous occupez l'espace et voyons comment vous possédez le sol. Vous êtes un peu perdu en tant qu'être humain. Oui, je suis désolée. Tu peux te cacher derrière ses cheveux. Vous détestez vous rappeler que les garçons ont grandi dans des terrains de jeu où ils devaient toujours se défendre. Vous devez donc développer plus d'armure dans votre expression physique. Comment ce type se protégerait-il? Je communique vraiment, et mon regard est sur le bord. Il est à la surface de mon œil. J'aime regarder le monde avec beaucoup de curiosité et un désir de communiquer. En tant qu'homme, je suis beaucoup plus réservée et je m'attends à ce que le monde vienne à moi. Je suis donc beaucoup plus renfermée.
On vient d'entendre parler d'Ayane Thor, l'une des pionnières du drag king dans les années 1990, dans le film Venus Boys de Gabriel Bore. Dans cet extrait, traduit par le drag king Milo Psirukis, on entend parler du drag king comme une protection. Est-ce que tu pourrais nous dire, Victor, quelle place tu accordes au care dans ta pratique du drag king?
Alors, je salue évidemment cet extrait de Ayane Thor, qui est une personne qui est très chère à mon cœur. Et sans qui, effectivement, le drag king n'aurait pas démarré aussitôt en France à l'initiative de Paul B. Preciado. Le care, en fait, c'est tout simplement en fait, que pour moi, le king qui est en toi, et personne n'est à l'abri, hein, tout le monde a un king à l'intérieur qui attend qu'une chose, hein, c'est d'en sortir. Alors, là où je place le care, en fait, c'est que lorsque on s'adresse à des participantes, par exemple, qui sont hors communauté, où la question du care, elle est abordée de manière assez différente, puisque les femmes cis-hétéro ont aussi, d'autres mécanismes de résistance. Le fait que quand tu viens à un atelier et que tu participes à un atelier, tu apprends en fait les mécanismes liés et associés à la masculinité. Ce sont des mécanismes de réponse par rapport à un œil extérieur qui essaye de jauger ton genre. Et donc ce qui m'intéresse dans cette pratique-là et là où je vois du care, c'est-à-dire que au lieu de te sentir en insécurité en tant que femme ou en tant que gouine ou en tant que personne trans dans l'espace public, en utilisant en fait ce que l'on travaille pendant les ateliers, tu n'as plus cet état anxiogène lié à est-ce que je suis en sécurité toute seule à 2h du mat dans les rues noires et obscures. Et donc le fait d'avoir appris à se comporter au masculin dans l'espace public et en ne faisant jamais douter l'œil extérieur quant à ton genre, ça te donne de la force, ça te redonne de la puissance. Et moi, ce qui m'intéresse, le step juste au-dessus, c'est que une meuf en talons, en barésie, une meuf ou une personne trans, hein, en talons, barésie et en méga jupe, Elle se promènera à 2h du mat dans les rues noires et obscures avec un comportement lié à « je sais comment se passe l'espace public et je gère ». Et donc là, j'ai le sentiment d'enlever une couche d'insécurité. C'est là où pour moi il est là, le Caire. Et il est dans un autre dispositif aussi, qui est celui de l'échange, tout simplement. L'échange lié à nos expériences. Et à l'issue de cet échange, ça devient, je dirais, comment dire, comme une catharsis, en fait. C'est là aussi où il y a un peu du Caire. On vient se renouveler en échangeant aussi les astuces des unes et des autres. Et ça fait du bien, un, de parler, deux, d'écouter, et trois, de se renouveler notre amour inconditionnel.
Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent plusieurs fois d'affilée, enfin pas forcément d'affilée, mais plusieurs fois à tes ateliers, et qu'est-ce que tu vois qui bouge en ELE ? Est-ce que c'est souvent la même chose ou est-ce que ça change en fonction des personnes ?
Oui, c'est une question très intéressante parce que ça arrive. J'ai par exemple une personne qui est devenue une chère amie depuis, qui a assisté à un premier atelier. J'étais en résidence en fait au point éphémère et on faisait un atelier tous les 2 mois sur toute l'année. Et la personne est venue à tous les ateliers et elle m'a dit qu'elle venait remplir son réservoir de force et que ça lui avait changé la vie. Et moi, juste pour entendre ça, au-delà du plaisir et du fait de se dire le job est fait, la transmission est faite, ça fait hyper plaisir de voir qu'une personne revient parce que ça devient comme une sorte d'addictisme en fait. Je viens chercher de la force, un peu dans la sororité, un peu dans la catharsis de je vais en découdre avec la masculinité comme bon me semble et j'ai tout l'espace et toute la liberté pour le faire.
Maintenant, je vais parler un peu plus de toi, ta pratique King. Et je voulais savoir quel lien tu faisais entre ton expérience de King et ton expérience de Gwyn.
Ah, très intéressant. C'est une vraie ligne. Avant d'être Gwyn, j'étais lesbienne, figure-toi. Et quand j'ai lu Wittig, bah, je suis devenu Gwyn. Quand j'ai lu Paul, je suis devenu queer. Quand j'ai commencé à travailler avec Paul sur les ateliers, évidemment, le drag king, la première fois à mon premier atelier, ça m'a totalement modifié la vision du monde que j'avais. Et de Gwyn, je suis passé à King, je suis passé à Trans. Et c'est marrant parce que pour moi, finalement, je n'ai fait à chaque fois, je dirais presque à chaque décade, aller vers moi-même et m'approcher de moi-même de plus en plus. Et j'ai vraiment le sentiment d'être la bonne personne que je suis. Et je suis content, en fait, d'avoir mis aussi beaucoup de temps parce que j'ai commencé, le drag king il y a 24 ans. Et je suis sur ma bonne ligne, en fait. Je ne sais pas ce que je pourrais devenir après trans. Je sais pas. J'aimerais bien avoir des petites oreilles de cochon, mais ça serait un truc de trans animal. Mais non, voilà, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, mais
tout à fait.
Je suis bien sur ma ligne. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que, je ne vais pas dire beaucoup parce que je ne veux pas stater, mais je peux constater de façon assez tranquille que beaucoup de personnes qui ont participé à des ateliers, au mien, et y compris en fait à tous les autres ateliers, parce que ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'ateliers, Et beaucoup de personnes, en passant par le King, s'auto-révèlent trans. Où il y a cette notion d'autorisation. En passant par le King, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec une voix intérieure qui te dit...
Comment tu l'accueilles quand tu vois qu'il y a des personnes qui peuvent venir à ton atelier et qui viennent certes pour avoir une expérience drag king, mais qu'il y a un questionnement identitaire peut-être en plus, quoi.
Oui, bah, je pense d'ailleurs que inconsciemment ou consciemment, hein, tu viens pas à un atelier drag king par hasard. Surtout quand ça dure 8 heures, tu dis oulala, enfin tu vois, on fait pas de la céramique non plus. Mais je pense que il y a du mystère en fait. Je sais pas ce que les personnes se racontent dans leur tête. Parfois, par exemple, j'ai des orgas qui m'appellent pour me dire oh là là, j'ai que 3 inscrits, on va annuler. Et je leur dis non, non, n'annule pas, tu vas voir qu'on sera 15 dimanche matin à 10h. Ou alors, enfin tu vois, il y a ce truc. Il y a parfois un peu de, comment dire, pas de stress, mais il y a une grande envie de faire cet atelier. Et en même temps, il y a une espèce de, une gendarmette intérieure qui t'empêche parce que tu vas chercher quelque chose qui te parle vraiment. Tu vois, par exemple, d'un point de vue anecdotique, souvent, ça m'arrive souvent de faire des ateliers dans des centres chorégraphiques ou des facs, etc. Et souvent, les personnes 6-7 viennent, genre, imagine un dimanche matin à 10h, elles viennent hyper sapées, hyper féminines, hyper maquillées. Et là, moi, je les regarde de loin et je me marre un peu parce que je me dis, c'est intéressant de vouloir, enfin, de venir à un atelier drag king et d'avoir des marqueurs très appuyés sur ta propre féminité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, à 20h, ce sont les pires kings de tout le groupe et que j'arrive jamais à les arrêter, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est comment tu viens et tu dis « Non, je m'assure, je suis une vraie meuf, je suis vraiment hête, y a pas, ça ne se discute pas. » Et puis à la fin, tu vois que c'est une pure caille à 21h, quoi, tu vois, donc...
Je voulais savoir comment tu travaillais la question du corps dans tes ateliers. Quelle place ça occupait ?
La place du corps, elle est venue de façon assez progressive. Avec Paul, on avait un line-up qui était construit un peu sur la méthode que Diane nous avait transmise. Et donc c'est quelque chose qui est très écrit, qui est très timé. Et puis, à un moment, on a beaucoup réfléchi. Moi, je dansais beaucoup à cette époque. Je danse un peu moins aujourd'hui, mais je dansais beaucoup plus à cette époque. J'étais dans une compagnie. Et pour moi, poser l'intention du drag king, c'est vraiment le secret d'un atelier réussi. Mais l'intention psychologique est insuffisante, à mon sens. Parce que dans l'espace public, c'est quoi le premier pilier de la représentation de la personne ? C'est le corps. Et donc, avant de poser une intention, il faut que j'ai un corps pour poser l'intention et pour faire exister cette intention. Et donc, le travail sur le corps est devenu vraiment, je dirais, un peu la façon dont je vais chercher pendant très longtemps à ce que les personnes lâchent leurs habitudes corporelles, qui sont souvent issus de positions de stress, d'angoisse, de blabla mental, qui fait qu'on a des réflexes, je dirais presque cellulaires, où on a du mal à lâcher les choses. Donc je fais un travail où on oblige les corps à lâcher. Et le second travail, c'est... On va habiter les différents stades de l'âge, du genre. Et je travaille essentiellement pour ça, beaucoup sur la marche et la respiration. Parce que travaillant essentiellement sur l'espace public, c'est avec la marche que j'entre en fait dans ce travail corporel.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic mec et puis j'aime ça, j'aime quand ça fait pas.
Ça vient d'en bas et puis quand c'est pas confiné, léché, trop sophistiqué, c'est péché.
Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole position. Peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge.
Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur
pour moi,
comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Kiff, c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Les conneries parlent juste pour parler. On ferme le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage par le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées dans les yeux fatigués des gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé.
Et tout le monde! Oh! Ah!
Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder des 12 mois par an. L'ont fait mes parents pour moi, parce qu'après c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont ivres. Au bien c'est que t'as envie de pleurer. Ou plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné,
nous parler du premier King qui est sorti de toi.
Ah oui. Alors, le premier atelier que j'ai fait, j'avais prévu, figure-toi, de régler des comptes avec mon père. Et j'avais une cravate de lui, donc j'avais prévu un costume en mode classique, quoi, le daron... Et puis, finalement, pendant l'atelier, je me rends compte que je ne vais pas du tout être en capacité de faire ce trip-là. Et je me retrouve, un peu malgré moi, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un caractère qui est resté assez longtemps installé chez moi. On était à Paris 8 et... je me suis retrouvé en mode Rachid, le dealer du quartier. Et il n'est pas venu de moi, en fait. Il est un peu arrivé de l'extérieur. C'est l'extérieur, certaines des participantes, qui m'ont... moi, je voulais être un peu en mode avocat, facilitateur... Et finalement, le fait d'être rebeu, je me suis retrouvé tout de suite à la place du dealer. Donc je pouvais pas être avocat, je pouvais être dealer. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une place à laquelle un peu j'ai été mis. Alors évidemment, lors de ce premier atelier, on était aussi hors communauté. On était vraiment dans un public très blanc, très dans un public qui fait des études au département danse de Paris 8. Voilà. Et donc, du coup, c'est un caractère qui est resté très longtemps. Rachid, il m'a accompagné beaucoup. Rachid m'a été très utile pendant plein d'ateliers. C'était un peu le garde-fou de la masculinité toxique. C'est-à-dire que, en étant Rachid et en étant un peu le connard de service, ça permettait aux autres de prendre d'autres figures de masculinité qui sont moins compliquées à porter.
Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu l'as totalement abandonné ou il est toujours un peu en toi ?
Non, Rachid est jamais loin. Surtout quand on essaye de m'embrouiller. C'est Rachid qui arrive tout de suite. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme... Alors, je ne sais pas si ce parallèle est... est une bonne idée. Mais pour ma propre pratique, tous mes caractères king ne reflètent qu'une partie de ma personnalité. Et en fonction de la zone ou du dispositif dans lequel je me trouve, je vais faire appel en fait à mon king. C'est vraiment en fait mon compagnon sur lequel je peux m'appuyer. Donc par exemple Rachid, quand je suis dans des embrouilles, c'est Rachid qui arrive tout de suite. Il me règle ça en 2 minutes.
T'as l'impression que ton king, il est toujours avec toi ?
Ouais. Ouais.
Comment t'as vécu et comment t'as cohabité avec ce personnage qui t'a été assigné ?
Moi, j'aime bien l'exercice quand on m'assigne des choses. Parce que finalement, ta seule capacité ou ta seule réponse de résistance, c'est de détourner cette assignation et de la détourner d'un point de vue stratégique de façon la plus positive qui soit pour toi. Parce que si on t'impose quelque chose que tu n'as pas choisi, il faut que tu puisses le customiser en quelque sorte. Et pour customiser les choses, il faut que tu fasses des choses jolies, jolies pour toi-même et que tu vas donner en représentation pour l'extérieur. Donc oui, ça m'a été assigné, mais finalement ça ne m'a pas déplu parce que j'ai pu un peu tourner autour, aller chercher mes propres failles aussi sur comment je représente une masculinité arabe toxique, dans un espace qui n'est pas le mien, par exemple. Ça permet aussi d'avoir d'autres compréhensions, même des compréhensions assez profondes, sur les tenants et les aboutissants de la masculinité, y compris quand elle est toxique.
Est-ce que tu pourrais nous faire part de ton expérience de pratiquer le king dans des milieux qui sont quand même majoritairement blancs ?
Ben justement, en fait... À un moment donné, il y a ce constat qui est fait, une scène majoritairement blanche, une représentation des corps assez mainstream, je dirais, et puis lors d'un événement extraordinaire qui s'est produit il y a 2 ans et qui a été organisé par une très belle personne qui s'appelle Pétrole des Amours et qui a organisé le premier festival de drag king en France, qui a été un événement majeur dans ma vie. C'est-à-dire que 15 secondes avant de mourir, je me souviendrai de ça. Je me suis dit que j'avais 3 images à choisir en tête, et ce moment-là fera partie de mes 3 dernières images. Et évidemment, on a partagé quelques jours ensemble, et à un moment donné, on s'est retrouvés entre racisés. Et on s'est dit, tiens, on a 2 choses en commun. On veut du king et on veut déconstruire les questions qui sont liées à nos assignations sur les questions de race, mais notamment aussi sur les questions de classe. Parce que finalement, il n'est plus vraiment uniquement question d'orientation ou de genre. Les questions aujourd'hui de race, de classe, et on s'est dit, faisons quelque chose qui nous ressemble, faisons King Taras. Et on a monté un collectif où effectivement, on donne à voir du drag king, et il n'y a pas une seule personne blanche dans notre collectif. Et voilà, on est différents artistes. Il y a un énorme artiste là qui est devant nous, qui est en train de se maquiller et qui est le long de la Vega. Voilà, ce collectif, moi, m'a beaucoup, beaucoup... comment dire ? Ça m'a aidé à me renouveler. Ça m'a aidé à poser le vrai mot de frère. Et puis, on a joué là-dessus, avec ça. Et c'est un collectif qui est ouvert, qui est en perpétuel mouvement. Parfois, il est en veille, parfois, il est très actif. Parfois, il y en a cinq qui sont très actifs et d'autres pas. Et j'aime bien cette nébuleuse-là, où tout est possible, en fonction de celles et ceux qui le souhaitent. Voilà.
Moi, je me souviens de la performance que vous aviez faite. Toi, quel souvenir tu gardes de ce moment ?
Alors, il y a eu une vraie empreinte. C'est-à-dire que le travail qui a été fait en une après-midi pour donner un méga cabaret le soir, ça a laissé une empreinte. En fait, moi, pendant... généralement, quand je fais un atelier, j'ai toujours un ou deux jours de down après. Et là, ça a bien été une dizaine de jours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle richesse d'émotions, de créativité, d'échanges, de confidences. Moi, ça m'a explosé de joie. Et en même temps, il y avait une émotion très, très forte. Très. Moi, j'ai beaucoup pleuré... le lendemain du cabaret, c'était voilà, une façon aussi de recharger les batteries avec les petits frères.
Est-ce que vous performez toujours tous ensemble ou bien des fois c'est à deux, seul, à trois ? Comment ça s'organise ?
Bah, justement, en fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est que ça ne s'organise pas, si je puis dire. On a joué à King des Champs. Ensuite, plusieurs d'entre nous ont joué en fonction de leur territoire d'appartenance ou de leur domiciliation. On a rejoué une deuxième fois tout en collectif cette année, il y a quelques mois en décembre, lors d'un cabaret que j'ai organisé. Et pour moi, il était essentiel. J'avais déjà fait ça il y a trois ans. On avait fait une première partie blanche et une seconde partie totalement racisée. Et j'ai bien vu en fait que j'étais un peu le seul à faire ça, quoi, en termes de cabaret. Mais oui, forcément, c'est mieux quand ça vient de toi, qui est déjà une personne racisée, qui travaille avec tes propres frères racisés. On a quand même, la valisette en commun. Ce qui est génial finalement, c'est que on peut jouer à deux, à trois, à un, on peut jouer à Lille, on peut jouer à Nantes, on peut jouer dans la Drôme, à Paris, à trois, à douze. Voilà, tout est possible. C'est un vrai collectif justement qui est protéiforme.
Il y a combien de personnes dedans ?
Alors, on est à la base de la base, c'est 10. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui souhaitent intégrer le collectif. Donc, on les intègre dans le groupe, évidemment, on échange, on prend des nouvelles. Et moi, idéalement, je voudrais faire le Zénith l'année prochaine. Non, je déconne, mais je voudrais vraiment qu'on ait une vraie salle, un vrai travail de résidence où on peut travailler. Et on peut aussi, nous, bénéficier des subventions publiques du ministère de la Culture tant qu'il y en a un.
J'avance vers la coiffeuse en bois verni. Je penche légèrement le miroir et le centre sur mon buste. Je déchire machinalement l'emballage du bandage médical acheté la veille. Je le déroule en le laissant glisser sur la coiffeuse. J'enlève mon t-shirt et dégrafe mon soutien-gorge. J'écarte mes épaules, bombe le torse, rentre le ventre, contracte mes muscles. Je regarde mon corps dans le miroir embué. Mes yeux se posent un instant sur mes seins blancs. Je prends la bande, je la maintiens d'une main et l'enroule autour de mon buste. Chaque tour me compresse un peu plus la poitrine. Mes seins disparaissent peu à peu. J'inspire profondément et découvre mon torse. Je reste un instant devant le miroir à ajuster la bande pour qu'elle ne tombe pas. J'enfile un t-shirt gris et le glisse dans mon short. Je resserre ma ceinture. Une légère bosse se dessine dans le creux du jean. J'enfile mes baskets et remonte mes chaussettes rayées. Je jette un dernier coup d'œil dans le miroir, je souris. J'embarque un paquet de clopes et je sors de l'hôtel. J'avance d'un pas assuré vers le nord. Les mains dans les poches, je longe la mer. Les vagues viennent s'écraser sous mes pieds. Le soleil me brûle les yeux, les mains, le cou. Je fronce les sourcils et baisse légèrement la tête. Je ramasse une rose échouée sur la plage. Je la fais tourner entre mes doigts et la cale au creux de mes lèvres. Les rayons jaunes se glissent dans mes cheveux ébouriffés. Je me pose sur une bande de sable noir. J'y enfonce mes mains lentement. J'étale le sable humide entre mes mains. Je l'applique sur mon menton et mes joues. Je dessine les contours appliqués d'une barbe fraîchement rasée. J'en pose une fine couche sur mes sourcils. Mes traits se durcissent, mon regard s'obscurcit. J'allume une cigarette. Les jambes écartées, je recrache la fumée, les yeux rivés sur les vagues. J'enlève mes chaussures et j'avance vers la mer. Je m'assois un instant les pieds dans l'eau, je me sens si beau. Je caresse ma barbe, je passe la main dans mes cheveux. Je souris, je me relève et m'élance dans l'eau. Les vagues frappent mon torse, je contracte le ventre et gonfle la poitrine. Je laisse tomber mes mains pour sentir le courant glisser entre mes doigts. Mes yeux me brûlent, je resserre la mâchoire. Je plonge ma tête dans l'eau et retire doucement ma barbe de sable noir. Je rince mon visage, le sel me tire la peau. Je rallume une cigarette et retourne paisiblement vers l'hôtel. Je soutiens le regard des promeneurs et des pêcheurs que je croise. Sûr de moi, j'esquisse des signes de tête en souriant. Ils ne détournent pas le regard. Aucune méfiance ne se lit dans leurs yeux. Je remonte dans ma chambre, j'enlève mon t-shirt et je laisse tomber le bandage sur mon corps humide. Je me regarde une dernière fois dans le miroir. Je me regarde pour la première fois.
Notre King Jay des Adelphes vient de nous lire un texte de Pio, intitulé King, qui est paru dans le 10e numéro du journal autonome Champ de Ronce, sorti en juin 2024.
Moi, je trouve qu'on y voit toute la puissance du drag, et notamment aussi, peut-être un sujet dont on a moins parlé depuis le début, mais la puissance dans l'exploration intime qu'on peut faire avec le drag. Est-ce que ça peut travailler vraiment dans une forme de solitude, en fait?
Oui, c'est intéressant parce que, tu vois, je trouve aussi que c'est un très joli texte. Et ce que j'aime à retenir, en fait, dans le passage que tu as lu, c'est quand il écrit « Je suis beau ». Et pour moi, c'est vraiment, je dirais, la frontière, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans le King, tu t'autorises à renouer avec une certaine idée de l'estime de soi, de la confiance en soi, et de la beauté. De trouver tout simplement qu'on est beau. Et quand on se trouve beau, on est fort, on est bien, et on est beaucoup moins atteint. Et c'est une question qui m'est très chère, je dirais. La question de la beauté et de l'estime, ça marche ensemble. Et moi, le King m'a aussi réconcilié avec ma propre estime de moi-même et la capacité de se trouver beau et de s'entendre dire qu'on est beau.
Tu disais qu'avec le collectif King Taras, toi, tu avais toujours un down. Il y a des gens qui ont une très forte euphorie après un show. Est-ce que tu saurais dire pourquoi, toi, tu as un down, si c'est à chaque fois ou...
Alors oui, c'est systématique, hein. C'est à chaque fois que je hoste un cabaret, que je joue moi-même, que je tienne un atelier ou que je perf, j'ai toujours un moment de down le lendemain. Je crois, en le disant, ça vient à mon esprit, et tout d'un coup je me dis « Ah oui, mais en effet, c'est peut-être ça dont il s'agit. » J'ai peur que ça ne se renouvelle pas. Il y a peut-être ce moment de down en disant « Est-ce que je pourrais le refaire bientôt ? Très vite ?» Parce qu'en fait, ça me nourrit. C'est mon aliment de base, je dirais. C'est ma protéine à moi, quoi. Et donc peut-être, oui, il y a une peur un peu intrinsèque en me disant « Est-ce que je vais avoir la chance de recommencer ?» Et de partager ça encore. Donc ouais, moi je suis euphorique souvent avant, je suis ingérable avant. Et par contre après, voilà, en général, je suis au fond d'une loge en train de dormir.
Est-ce que pendant toutes tes années de pratique de dragging, il y a eu des fluctuations par rapport à l'euphorie que ça pouvait te procurer ? Est-ce qu'à un moment tu as un peu perdu cette euphorie-là ? Ou bien elle est tout le temps restée ?
Non, elle est là. Et un peu comme ce qu'on échangeait tout à l'heure en début, j'ai l'impression que cette euphorie, elle est aussi évolutive. J'ai envie de te dire qu'au début, j'étais juste trop excité avec cette idée de découverte que, en plus, je pouvais faire ça non seulement ouvertement dans ma chambre et sortir dans la rue en king. Donc là, ça a été aussi une autre, je dirais, pratique de l'euphorie. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand j'ai commencé à ma transition et que j'ai commencé à avoir de la barbe, parce que moi, pour moi, très naïvement, devenir trans, c'était, je l'étais déjà, en fait. Je vivais déjà sous l'identité de Victor depuis très longtemps sans prendre d'hormones et ça me semblait pas nécessaire. Et avec le king et avec ses poils sur mon visage, en fait, je me suis dit, voilà, en fait, je veux être drag king tous les jours. Donc pour moi, finalement, je voulais pas vraiment être trans parce que je l'étais déjà. Enfin, j'étais déjà pour moi au masculin. Ça se discutait pas. Mais d'être king tous les jours, ça me faisait grave kiffer. Et donc, il y a eu cette euphorie. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que... aujourd'hui, si je fais un atelier, le fait d'avoir déjà ma barbe, alors souvent donc je me rase pour être en king au même niveau que les participantes, c'est-à-dire on partage du début à la fin. Et ce que les... en fait, moi, j'anime pas de façon distanciée, etc. Non, moi, je mets tout de moi à l'intérieur. Je parle aussi beaucoup de moi. Parce que ça permet aussi de créer cet espace, en tout cas montrer aux participantes qu'il y a un dispositif qui est possible et où on peut tout se dire, même les choses les plus inavouables. Et que c'est parce qu'aujourd'hui justement on est 15, on en profite, parce que 15 oreilles qui t'écoutent, c'est toujours vachement plus puissant. Et en termes de réception, tu sais que là t'as 15 bras qui sont là pour toi. Donc voilà, ça fait, pour moi, c'est le poil, la beauté, les bras, tout est un petit peu mélangé. C'est une grosse boîte avec beaucoup de choses dedans.
Et t'as toujours autant conscience que la masculinité, c'est une performance ?
Ah oui, alors inévitablement, parce que justement, quand enfin j'ai été décodé au masculin dans l'espace public, là tout d'un coup je me suis fait rattraper par une petite chose qui s'appelle la féminité. Que j'avais mis de côté toute ma vie parce que j'étais une vraie gouine très butch et fière de l'être. Et que pour moi, la féminité, ce n'était absolument pas pour moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux, en fait, de m'être réconcilié, en fait, avec cette féminité. Et évidemment que c'est d'autant plus une performance de genre. Parce que autant... quand j'étais une petite gouine très énervée, très radicale, mais vraiment très très énervée, avec un vrai, une vraie addition à régler avec la masculinité, mais aussi bien avec la féminité, j'étais hors genre. D'ailleurs, Voilà, c'est pour ça que j'étais bien dans cet espace-là, dans cet interespace. Mais le fait est que, ouais, je me suis réconcilié aujourd'hui avec ma féminité et j'adore me mettre en jupe aujourd'hui. Et je perf beaucoup, toujours avec quelque chose qui fait que je n'oublie pas que j'ai vécu 45 ans en tant que meuf décodée par l'extérieur. Et je suis en fait assez content, au final, d'avoir transité très, très, très loin en âge.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, quand t'es une meuf, t'appréhendes pas le monde comme un gars. Et que être une meuf, c'est dangereux. C'est beau, c'est magnifique aussi, moi aussi pour les garçons, hein. Mais en tout cas, c'est moi mon expérience, en tout cas. Et pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, si on me dit « Ah, t'es un garçon », non, je dis « Non, je suis pas un garçon, je suis trans. Je suis ni un garçon, ni un homme, non, je suis trans. »
Cette identité, elle est importante pour toi?
Ouais, très. Elle est, voilà, c'est mon pilier à moi, quoi, c'est ma petite...
Est-ce que tu as senti quelque chose qui bougeait dans ton king à partir du moment où tu as eu un passing masculin? Donc, c'est-à-dire le fait que le monde te genrait, te reconnaissait au masculin sans se poser de questions?
Oui, mon king c'est adouci. Il s'est adouci, il est devenu plus compatissant avec ses camarades masculins. Il est devenu plus à l'écoute. Et c'est justement, en fait, une fois que tu as dépassé, en fait, finalement, je dirais, la question du genre. Je veux pas utiliser un jargon franco-français sur les questions de l'universalisme, qu'on est au-delà du genre. Non, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire. En plus, moi, je fais vraiment partie, enfin, des vieux où, quand t'es queer, t'es hyper identitaire. Ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. On s'est un peu défait de ça. Mais, oui, je me suis adouci. Mon king s'est adouci. Il est beaucoup plus charmeur, il est sympa, il veut faire du bien. Il veut plus foutre la merde.
Nous sommes en transhumance, oui, vers de nouvelles résistances. Un transit vers un monde où l'on transpire d'amour, d'attention, de lutte et de résistance.
King Vitam Eternam, c'est un vrai manifeste qui est festif et politique, et c'est du vrai empowerment.
Je viens d'entendre le générique d'une King Vitam Eternam. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Oui, King Vitam Eternam, c'est est le nom du collectif que j'ai monté en compagnie de Hélène Barrier, qui est mon partenaire et mon binôme artistique. Et comme on commençait un peu à faire beaucoup d'ateliers, qu'on avait une forte demande, même en termes de... Je voulais plus que ça soit que mon nom. Je voulais plus être le véhicule de mes propres ateliers. Je voulais être conduit sous une charrette un petit peu plus collective. Et donc, King Vitam Eternam, ça m'est venu comme ça. Parce que c'est un peu, finalement, comme ça que je vois la chose dans ma vie. Et donc, on a monté ce collectif qui nous permet aussi d'organiser des cabarets sous cette étoile-là. De plus être représenté par mon nom.
Au sein de ce collectif, comment tu penses la transmission?
C'est ma respiration. Et le fait d'être très... très connecté avec les nouvelles scènes et les nouveaux performeurs et les nouvelles générations. D'une part, ça me permet de, d'être bien ancré dans le réel d'aujourd'hui, d'éviter de devenir un vieux con, en fait, c'est très important, d'écouter. Les formulations ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qui ont bougé et j'en suis hyper content. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis là, c'est que je pense que je serai là jusqu'à la veille de ma mort. Donc comme ça fait partie de ma vie, alors l'autre fois je rigolais, j'ai discuté avec un ami qui est un petit peu plus âgé que moi et qui me disait « mais tu vas faire des ateliers jusqu'à 70 ans ?» Je dis « bah pourquoi pas ?» Donc il m'a dit « ah ouais, il me dit, bah, on en fera dans les EHPAD ?» Je dis « bah pourquoi pas ?» Bah ouais, parce que en fait, dans 25 ans, on en sera où dans nos sociétés sur les questions de déconstruction, sur les questions de l'agéisme, sur les questions de genre, sur les questions de transidentité? On sera où dans 25 ans?
Et tu disais qu'il y a des choses qui ont changé, qui t'ont plu. Est-ce que tu pourrais dire quoi? Et aussi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur lesquelles tu as pu ou tu peux encore avoir des formes de résistance un peu?
Alors, c'est pas vraiment une résistance de ma part, mais on voit bien, alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles là je suis toujours très près de l'actualité de mes jeunes petits frères, c'est que la question de la pratique en elle-même a changé. C'est-à-dire que là, on est fondamentalement dans ce qu'on appelle le drag king on stage, donc une figure tout aussi charismatique que le drag king off stage, mais là on est aussi dans une nouvelle pratique dans le sens où là les drag kings se maquillent beaucoup quand on est on stage et ils deviennent des artistes de cabaret de façon pleine et entière. Moi je travaille la figure du drag king qui est off stage parce que moi je veux que les objets deviennent des sujets dans l'espace public et je veux que la personne regardée devienne une personne regardant. Donc déjà la pratique du maquillage, moi j'ai beaucoup appris. Je suis complètement ignare en la matière et d'ailleurs c'est un de mes c'est ça qui est chouette, c'est que je peux me donner des objectifs aussi pour m'améliorer dans le drag. Et j'ai beaucoup à apprendre de mes petits frères, parce que je sais absolument pas, si tu me dis « Victor, là, il faut que tu fasses du make-up », non, je sais pas faire. Moi, je travaille avec le poil depuis toujours, mais c'est aussi parce que j'ai un espace dans lequel je peux pas travailler avec le maquillage, parce que je vais être décodé. On va me dire « ah, tu fais du théâtre ». Donc voilà, pour moi, ça... C'est pas vraiment une résistance, mais je le prends comme un objectif et encore quelque chose à apprendre que je ne connais pas du King. Et ça, c'est juste mortel. Parce que quand t'es dans une pratique depuis 25 ans et que tout d'un coup tu dis « Hey, mais ça, il faut que j'apprenne ça, je sais pas le faire. » Ça veut dire, un, que l'histoire, elle a bien fait son boulot parce que les pratiques ont été, changeantes. Et qu'on arrive à un step auquel moi je ne suis pas arrivé. Et donc j'ai des choses à apprendre de mes petits frères. C'est ça qui est chouette.
Je voulais te remercier, Victor. Merci à la Mitunerie pour son accueil, pour l'enregistrement hors les murs. À l'association de la King's Factory, qui organise tous les derniers mercredis du mois un drag show composé intégralement de scènes ouvertes. Si vous voulez vous lancer, si vous voulez performer, contactez-les. C'est une merveilleuse première scène. Merci à tous les artistes de ce soir. À Lou Gravou d'Horizon pour les visuels de l'émission. Merci à Radio Campus Paris et à la Dilcra de m'accompagner dans ce projet. Enfin, merci à Philippe Fischer pour sa confiance. À Grégoire Verprat pour son aide précieuse et à Jean Foucault pour la réalisation.